Vous entendez du haut de l'amphi ? Bon, bien. Alors je voudrais tout particulièrement remercier Madame Lebranchu qui donc a accepté de venir cet après-midi. Je crois qu'elle avait, non pas un choix, mais enfin il y avait un rendez-vous à l'hôtel Matignon, elle préférait venir ici. Et donc nous la remercions vraiment beaucoup. Alors je vais lui donner immédiatement la parole. Et elle va donc nous parler essentiellement de l'acte 3 de la décentralisation. Ensuite, vous pourrez bien évidemment, nous pourrons échanger avec elle, vous pourrez poser des questions et élargir d'autres thèmes. Bon, deux petits mots d'introduction. Bon, je ne suis pas un spécialiste du droit ni de la science politique. Je suis davantage tourné vers l'histoire, donc une introduction très très générale. Hein, mais donc, en gros, quand même, en France, dans notre pays, des Capétiens aux Jacobins, hein, de Colbert à De Gaulle, le processus territorial français donc, n'a cessé de renforcer la puissance parisienne, hein, au point qu'en 1947, on se souvient du jugement de Jean-François Gravier sur Paris et le désert français. Bon, Gravier, qui était ministère du plan en même temps que côté ses activités de géographe, et donc qui faisait ce constat d'une France tout de même très... où les territoires étaient très peu actifs, quelque part, et du grand déséquilibre. Alors, si dans les années 60, Malraux a pu, du haut de sa chaire, si je puis dire, c'était pas une chaire, mais enfin, du haut du ministère de la Culture, affirmer que le mot hideux de province allait disparaître dans les 10 ans, eh bien, si Olivier Guichard, un peu plus tardivement, fait un rapport aussi pour le président Giscard d'Estaing, où il... évoquait le vivre ensemble, un projet d'aménagement du territoire tourné vers le vivre ensemble, eh bien, il faut attendre quand même donc 1982 et les lois François Mitterrand, enfin, président Mitterrand et Gaston Defferre pour vraiment que la France s'engage dans un processus de décentralisation. Alors, ce processus a été renforcé dans les années 2003-2005. C'était un deuxième train de loi renforçant donc la décentralisation. Le mouvement dans les années 70 s'était engagé également, bien sûr, avec la création des régions, puis les métropoles d'équilibre, les 6 ou 8 métropoles d'équilibre qui vont jouer un rôle également important dans les années 70. Mais pour autant, les problèmes demeurent, le monde rural souffre, la diagonale du vide, entre qui va des Ardennes jusqu'au nord de la Gascogne, ne se réserve pas, et donc et Paris demeure toujours Paris, quoique certains y pensent. Et on sait donc depuis Baudelaire, depuis Julien Gracq, que la forme d'une ville change moins vite que le cœur d'un humain. Donc, je vais vous donner la parole, Madame la Ministre, afin de savoir si vous avez dans vos corps nus des phares et des onguents, de quoi réoxygéner donc, les territoires, et donc
j'ai ce qu'il faut. Moi. Je pense que ça fonctionne. Bien, merci à François Quillan d'être intervenu auprès du Premier ministre pour que je puisse avoir mon billet de sortie, que je n'avais que pour 16 heures. Donc, merci et merci bien sûr à vous et à ceux qui m'ont accompagné depuis tout à l'heure. L'IPAG, pour moi, ce n'est pas une terre inconnue, d'abord parce que on discute beaucoup avec l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et Thierry Mandon de tout ce qui s'organise autour de la préparation au concours de la fonction publique et parce que j'ai eu l'honneur d'être comme professionnelle intervenante il y a quelques années quand j'étais encore beaucoup plus jeune que maintenant. Et donc, j'ai dit oui quand François m'a demandé, d'autant que c'est une période intéressante pour la décentralisation, pour la fonction publique aussi beaucoup, puisqu'on est en train de réécrire beaucoup de choses, mais ça, on donnera les éléments, et peut-être je reviendrai s'il faut avant les concours. Mais c'est vrai que ça me fait particulièrement plaisir, parce que j'ai devant moi des jeunes qui sont prêts à s'engager dans l'action publique, dans la fonction publique. Et j'ai écrit à tous les fonctionnaires cette semaine, parce qu'après l'horreur qu'on a vécue, on a bien vu que ceux qui ont soigné, transporté, puis protégé, ce sont les fonctionnaires. Et bien sûr, les fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires hospitaliers, des fonctionnaires territoriaux. Et souvent, Il y a ce que j'appelle, comme tous les autres, parce que je parle aussi mal que tout le monde, fonctionnaire bashing, surtout de la radio, les télévisions, les journaux, les fonctionnaires qui sont une charge et qui sont en général archaïques. Et on voit bien que d'abord en période de crise économique, et on l'a vu nous depuis qu'on est là en 2012, mais c'était évident avant à Brest par exemple, on voit bien que c'est l'action publique, donc la fonction publique qui porte à la fois les difficultés, les espoirs et les chantiers, et qui est là quand le tissu de la société se déchire. Donc merci de préparer ces concours-là. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, mais très attachée à cette fonction publique. J'ai eu à porter, depuis donc, mai 2012, immédiatement après l'élection de François Hollande, le dossier qui s'appelait à l'époque « Troisième étape de la décentralisation ». Et donc, un texte qui était prêt, parce que comme beaucoup, François Hollande s'était entouré avant d'un certain nombre de personnes qui avaient préparé un texte qui faisait 35 articles et qui était la troisième étape de la décentralisation. Mais les choses ne se passent pas forcément comme on les envisage au départ. Et après discussion avec le président de la République, on a décidé d'attendre que les états généraux du Sénat s'achèvent, puisque le Sénat avait lancé des états généraux de l'ensemble des élus de France pour savoir comment, élus de France, ils voyaient l'évolution de la décentralisation. Donc cette copie nous a été rendue en octobre avec un discours du président de la République qui a tracé un chemin important, et dans la première étape de ce chemin, il y avait la reconnaissance du fait urbain et la création des métropoles en France, et puis bien évidemment il avait décliné un certain nombre d'orientations sur lesquelles je reviendrai. Et curieusement, le Sénat qui a la réputation, ou en tout cas l'image, de représenter les communes rurales, a choisi de couper le texte parce qu'il trouvait que le texte était trop lourd, trop long, trop difficile et amènerait des discussions tellement longues qu'elles risquaient de ne pas être efficaces. Et le Sénat a choisi de commencer par la loi dite MAPTAN, donc modernisation de l'action publique et des territoires, pour commencer par les métropoles, la création des métropoles en France, qui a été une étape extrêmement importante. Je suis très franche avec tout le monde. Au départ, je croyais que ce serait difficile de passer les métropoles d'abord, parce qu'on parlait tout à l'heure de la ligne des Ardennes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'images qui circulent comme facteur de distanciation entre les urbains et les ruraux, même facteur d'opposition parfois. Et je craignais qu'un texte sur les métropoles passe mal. Et en fait, c'est le Sénat qui a été le plus allant, le plus porteur de ce texte-là, y compris pour Paris. J'y viendrai en incidente, parce que si on commence à décrire la métropole du Grand Paris, c'est trop long. Ça a été une agréable surprise, en fait, que de voir le Sénat se lancer dans cette description d'abord, puis écriture en droit de ce qu'étaient les métropoles. Après un débat qui a conduit à un autre volet, parce que tout ça a été fort compliqué, un débat sur l'organisation territoriale de la République, fallait-il ou pas supprimer les départements, et un rapport du Sénat écrit à la fois par Jean-Pierre Raffarin et Yves Crataget, donc un rapport transpartisan, montrait que, ou bien on gardait des petites régions et on supprimait les départements, ou bien on créait de grandes régions et on gardait les départements. Donc le 14 janvier, le président de la République a tranché, on a créé de grandes régions, et après quelques aléas de discussion, nous n'avons pas supprimé les départements, sauf il est possible de le faire sur les aires métropolitaines, mais pour l'instant, aucune en dehors de Paris, aucune métropole n'en a discuté. Il faut dire que sur Paris, la commune est en même temps le département, donc ça a moins de sens, mais on aurait pu imaginer que sur la métropole du Grand Paris, en tout cas, les départements dits de petite couronne puissent disparaître. Donc on a présenté un texte essentiellement autour des métropoles, avec des objectifs qui étaient précis. Donner une assise juridique aux métropoles, ce n'était pas simplement les reconnaître, c'était aussi sortir de la stratégie de Lisbonne, dans laquelle, peut-être vous avez regardé tous les textes qui sont sortis après Lisbonne, texte qui disait au fond comment on peut faire progresser les territoires européens et augmenter leur PIB Il suffit de faire des métropoles, c'est-à-dire des grandes boîtes dans lesquelles on met énormément d'habitants, de moyens, de recherche et de recherche-développement, etc. Et puis on les met en concurrence les unes avec les autres et ça tire tout le territoire. Et moi, j'ai présenté un point de vue tout à fait différent en pensant qu'il fallait surtout penser métropole en pensant fonction métropolitaine. François Cuyandrella, moi j'étais maire de Morlaix, le maire de Lormeur pense que Morlaix prend tout, le maire de Morlaix pense que Brest prend tout, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toujours cette espèce de discussion du plus gros qui prend quelque chose au plus petit, et il fallait qu'on change de paradigme, qu'on change de raisonnement tout simplement, en disant qu'est-ce que moi, commune rurale ou moi citoyen, j'attends d'une métropole. J'attends d'une métropole, bien d'abord qu'elle soit urbanistiquement intéressante et que je puisse y venir facilement, bien évidemment, mais j'attends qu'elle porte l'enseignement supérieur, la recherche, tous les créneaux d'avenir en termes de développement économique, mais qu'elle porte aussi les grands établissements culturels, qu'elle porte l'intermodalité et des grandes plateformes de mobilité. La plupart des Finistériens ou des Bretons n'ont pas participé au financement de l'aéroport de Brest, qui est pourtant leur aéroport. Donc comment on discute des fonctions des métropoles en même temps qu'on les reconnaît? Et ça a été ça, sans doute, ce qui a fait que le texte sur les métropoles est passé au niveau du Sénat sans problème, avec un appui très fort de l'Institut de la décentralisation. Je vous invite, quand vous préparez des concours, à parfois vous promener sur les publications de cet institut. Et Jean-Pierre Balligan, disant très fortement dans un colloque de préparation, dans une réunion de préparation qu'on avait transformée en colloque, moi, et citoyen de commune rurale, j'ai besoin d'une métropole qui accueille mes enfants à l'école pour les cultiver et qui les loge et qui les porte et qui leur permet d'avoir une vie équilibrée. Et cet institut de décentralisation nous a aidés à faire passer l'idée de métropole, d'efficacité des services. Et nous avons expliqué, essayé de rationaliser aussi le passage, enfin la fin des métropoles stratégie de Lisbonne, qui était celle de 2010, à celle-là, en faisant constat que depuis les grandes lois de décentralisation des années 80, petit à petit, les territoires ont commencé à se faire concurrence. Concurrence sur le prix du terrain pour l'habitat, concurrence pour l'aide aux entreprises, concurrence pour avoir tel ou tel créateur ou bien entrepreneur. Et l'idée forte a été de dire qu'il faut qu'on quitte la concurrence pour entrer dans la coopération. Le redressement de la France ne se fera pas uniquement en concurrence. Quand une entreprise déménage parce qu'elle s'agrandit pour aller dans une collectivité uniquement parce que la seconde collectivité apporte plus, ça ne crée aucune valeur ajoutée sur le territoire français. Ça ne crée rien en termes de PIB, mais ça crée simplement de la dépense publique. Et cette dépense publique, dans ces cas-là, est inutile. Donc l'idée, c'est coopération. Et la coopération doit avoir des outils de coopération. Donc en même temps qu'on présentait le texte sur les métropoles, on a présenté celui sur les régions, non pas sur leurs compétences, puisque ça venait dans le texte suivant, mais sur l'organisation. Et c'est pourquoi, moi, je n'ai pas voulu que ces lois s'appellent de décentralisation, mais d'organisation territoriale de la République. C'est une nouvelle organisation territoriale de la République, le troisième volet, la loi NOTRe, parce qu'on décentralise peu, mais on organise les compétences et on organise institutionnellement les collectivités territoriales, les unes par rapport aux autres, y compris, d'ailleurs, en nous heurtant à une constitution qui a été réécrite par l'ancienne majorité, qui rend totale l'autonomie des collectivités locales, qui interdit bien sûr les tutelles, mais qui nous a encombrés sur certains points, comme l'expérimentation, j'y reviendrai. Donc, on crée un outil, et tout le monde a dit c'est une loi bretonne, oui, c'est effectivement une loi bretonne, puisqu'on crée la conférence territoriale de l'action publique, dans laquelle doit obligatoirement se réunir à la fois le préfet de région, le président de la région, c'est lui qui convoque l'ensemble des présidents de département, l'ensemble des présidents des agglos et bien sûr des métropoles. Et on crée cette conférence territoriale de l'action publique pour préparer ce qu'apportera le texte, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter d'une part et la possibilité de déléguer des compétences en infra-régional d'une collectivité vers une autre. C'était compliqué à faire passer comme idée. Maintenant, c'est tout simple. Tout le monde s'abrite derrière la conférence territoriale de l'action publique. Mais ça a été un moment difficile en débat parlementaire parce que les uns ou les autres disaient « Le président de la région va m'empêcher de m'exprimer. » Alors que le nombre d'agglos autour de la table d'agglomération ou de métropole, puisqu'ici en Bretagne on en a deux, eh bien, sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire, le président du conseil régional est par calcul mathématique forcément minoritaire dans cette assemblée. En revanche, c'est le lieu dans lequel on va discuter, par exemple, de la négociation du contrat de plan interrégion, des grandes infrastructures, je vais aussi y revenir. Mais c'est le moment aussi où la région, qui demande une expérimentation, par exemple, qui ne s'appelle plus comme ça au préfet de région, l'expliquera à l'ensemble de ceux qui sont présents, parce que si elle a une nouvelle compétence, elle impactera en compétence forcément l'ensemble des collectivités territoriales. Donc on crée cet outil au début, qui paraît un peu opaque, un peu difficile, et on ne passe pas tout de suite aux compétences, parce que dans le même temps, on décide avec Michel Sapin de faire passer le transfert de compétences formation professionnelle, qui était le plus lourd, qui était dans la loi que je devais porter, mais pour gagner du temps, on le fait passer dans la loi Michel Sapin, et on prend une décision qui est une décision à la fois intéressante et quasi symbolique, qui est la gestion des fonds structurels par la région. Donc la région prend une dimension supplémentaire, parce qu'elle prend l'ensemble de la formation professionnelle, elle a déjà les lycées, vous le savez, mais elle prend les fonds structurels. Contre l'administration centrale française, qui croit que c'est difficile pour une région de bien gérer les fonds structurels européens. Et donc, c'était un pas important, c'est sans doute le pas le plus symbolique que nous avons fait à ce moment-là. Et puis, tout ça étant écrit, on crée donc le cadre que j'essaye de vous décrire, mais il y aura des fiches plus détaillées pour ceux qui veulent les lire après, le cadre dans lequel va s'inscrire le grand débat sur les compétences. Une fois ce cadre installé, on a pu passer, bien évidemment, à la loi suivante et aux compétences. On avait effectivement dans le débat, on a commencé avant la création des grandes régions. Et ça a quand même déstabilisé la plupart des parlementaires quand se loge entre les deux parties de la loi l'arrivée des grandes régions, avec la crainte des grands barons locaux, avec la crainte de l'étouffement. C'était vraiment le mot qui revenait. Ils vont nous étouffer. C'était assez impressionnant, les mots qui étaient utilisés. Et aussi le fait qu'avec peu de régions, on s'acheminerait, je dis bien au conditionnel, parce que c'était une crainte et pas forcément une réalité, vers une sorte de discussion État et moins de 15 personnes qui allaient porter l'entièreté des politiques publiques. Donc ça a été un moment complexe, les débats ont été longs, les débats ont été intéressants, et pour ceux qui se passionnent, ça vaut le coup de les lire, parce qu'on voit bien que les clivages ne sont pas dans les partis politiques, mais totalement transpartisans, et que ça dépend souvent de l'endroit où l'on est, du deuxième mandat qu'on exerce. Moi, je pense maintenant, plus que jamais, que le cumul peut être une difficulté. Parce qu'on a eu des blocs à un moment donné au Sénat, le bloc des présidents de conseils généraux, le bloc des maires, président d'agglo, et on n'avait pas de bloc des présidents de région, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, en général, ils sont très minoritaires dans les assemblées parlementaires. Donc ça a été un moment un peu compliqué, mais on est arrivé à, je pense, une cote assez bien taillée, puisque dans la première loi, on avait dit si le cadre est inscrit, on peut laisser la compétence générale à tout le monde, c'est-à-dire le droit de tout faire à tout le monde. Et quand on a pu entrer vraiment, parce que, enfin, moi je m'en souviendrai, parce que l'histoire a été quand même difficile à écrire, quand on a pu rentrer vraiment dans le débat sur les compétences, parce que les grandes régions arrivaient, parce que le cadre avait été enfin accepté, parce que les métropoles faisaient moins peur, on a pu entrer vers la suppression de la clause de compétence générale pour les régions et les départements, et rentrer dans un débat beaucoup plus fin sur les compétences. Sur les compétences, l'essentiel pour nous, par rapport aux régions, c'était de leur faire changer de niveau. Les régions pouvaient, avaient naturellement cette compétence, intervenir dans le développement économique, mais avaient beaucoup de mal à trouver le cadre exact de leurs interventions. Donc c'était de la co-construction de politiques publiques, généralement avec les grandes agglomérations en premier, les départements, des communes, des entrepreneurs, mais il n'y avait pas un cadre suffisamment clair et défini, si bien qu'en France, il y avait à cette époque-là 6000 dispositifs d'aide aux entreprises différents. On ne pouvait pas rester avec 6000 dispositifs d'aide aux entreprises différents. Donc l'idée a été de dire, il faut que la compétence développement économique soit écrite, décrite, écrite, claire, et que seules les régions aient le droit aux aides directes aux entreprises. Donc aujourd'hui, seules les régions ont le droit aux aides directes aux entreprises, ça c'est important, et seules elles peuvent entrer au capital d'une entreprise, c'était demandé depuis longtemps par les régions de France, quand une entreprise était en difficulté, est-ce que je peux rentrer temporairement au capital, soit pour sortir l'entreprise de son ornière, soit pour l'accompagner pendant qu'elle se crée. Et donc, seules les régions peuvent, effectivement, elles l'ont obtenu, entrer au capital de l'entreprise de façon temporaire et contrôlée, bien évidemment. Donc, un, les aides directes, les aides aux entreprises sont réservées, totalement réservées aux régions. En revanche, pour tout le reste, qui est bien sûr les laboratoires, la recherche, l'accompagnement de tout ce qui fait le développement économique d'un pays et qui part de l'enseignement supérieur essentiellement, il peut y avoir des accords entre la région et les autres collectivités territoriales. D'où l'importance de la conférence territoriale de l'action publique. Beaucoup de régions, on verra après les élections, mais beaucoup de régions pensent déjà, dans ce qu'elles sont aujourd'hui, que l'immobilier d'entreprise peut très bien être géré par une collectivité territoriale, métropole ou autre. Le moins possible les départements, j'y reviendrai, mais en particulier les métropoles et les intercommunalités. Donc, possibilité de déléguer les compétences, mais à chaque fois qu'une compétence est déléguée, il faut passer, je dirais, l'espèce de, d'accord, non, là, c'est pas une espèce d'accord, il faut passer l'accord en conférence territoriale de l'action publique pour que chaque citoyen puisse s'y retrouver et sache enfin qui fait quoi. Parce que le problème de la clause de compétence générale à tout le monde, c'est qu'on ne sait jamais qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Et généralement, celui qui n'est pas content pense que c'est le maire, donc président de la métropole, qui est responsable de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture et de lecture suffisante de la compétence et de la façon dont elle est exercée dans tel ou tel territoire. Donc on a envelopper, si vous me permettez cette expression, le développement économique. Je laisse de côté la formation professionnelle parce que c'est le tout, y compris l'accompagnement aux personnes qui sont en situation de chômage, même si là, par rapport à Pôle emploi, on n'est pas allé au bout de notre histoire. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais l'État et l'arbitrage avaient été rendus, donc moi je ne suis que ministre, donc j'obéis. Pôle emploi étant un opérateur de l'État récent, très récent, un mariage de la NPE et des ACDI, distribuant les allocations aux chômeurs, on ne voyait pas, au bout d'aussi peu de temps, le démontage de Pôle emploi pour laisser la compétence qui était la compétence ex-ANPE, c'était celle-là qui aurait pu être portée par la région. Donc du coup, maintenant il y a une, comme on dit toujours, c'est la grande mode de la coproduction, on coproduit beaucoup, coproduction entre l'État et les régions. Les régions siègent à Pôle emploi et ont une part de cette activité. Je pense qu'y compris dans une copie de concours, il faudrait souligner le fait que sur cet aspect des choses, on n'est pas, à mon avis, assez clair. Alors, il faut faire attention aux correcteurs, parce que les correcteurs sont de l'administration centrale, donc ils pensent que Pôle emploi doit tout avoir. Donc, il faut peut-être dans les copies, avoir toujours dans la tête que celui qui lit n'est pas forcément un décentralisateur. Donc, il faut peut-être décrire à froid les choses. Donc, développement économique, formation professionnelle, les lycées, je n'y reviens pas, le droit d'entrer dans l'enseignement supérieur et la recherche en collaboration avec l'État. Et puis, deux éléments importants sont des schémas prescriptifs. Et c'est là où le droit s'écrit de façon forte, parce que pour la première fois de l'histoire, non pas une décision s'impose à d'autres, mais un schéma s'impose à d'autres collectivités territoriales. Le débat a beaucoup porté sur la Constitution, sur l'autonomie des collectivités locales et la non-tutelle d'une collectivité locale sur l'autre, mais on est sorti quand même avec un schéma régional du développement économique et de l'internationalisation des entreprises qui est vraiment signé par la délibération de la région et qui s'oppose à l'ensemble du territoire, sauf sur un point, aux métropoles, sur les métropoles, par exemple, un laboratoire de recherche. L'exemple qui avait été donné par Gérard Collomb est intéressant à reprendre, parce que tout le monde le connaît. Si une région s'oppose au développement des nanotechnologies, ça peut se produire dans une configuration régionale, puisque les nanotechnologies peuvent être décriées par des tenants de partis politiques. Si on s'oppose à un laboratoire de nanotechnologie et que l'État ne s'y oppose pas, parce qu'il estime qu'il est possible d'avoir un laboratoire de recherche sur ce point-là, alors la métropole peut, elle, porter le laboratoire en question. Donc c'est l'exception sur laquelle on a discuté, qu'on a réussi à écrire. L'écriture en droit ne fut pas simple. Et donc, pour permettre à une métropole ou une aglo de porter un laboratoire qu'une région ne voudrait pas porter. Donc, schéma régional prescriptif, c'est-à-dire les grandes stratégies industrielles, les créneaux industriels qu'on décide, on décide de donner priorité, c'est la région qui, après consultation à conférence territoriale de l'action publique, sert aussi à ça, consultation de l'ensemble des partenaires, eh bien, écrit sa stratégie pour 2 ans, 3 ans, ou pour un mandat, ou annuellement, parce qu'elle a la possibilité d'en changer. On a mis partout des clauses de revoyure qui permettent de faire évoluer un dossier, parce que l'économie va vite, le monde change, et bien évidemment, il faut savoir s'y adapter. Donc, un schéma qui concerne l'économie qui est opposable, et un autre schéma qui a été beaucoup plus dur à faire passer, qui est le schéma régional de l'aménagement du territoire et de l'environnement, et qui s'oppose aussi aux autres collectivités territoriales. Mais il faut faire attention, ce schéma n'est pas un schéma d'urbanisme. Il ne va pas à la parcelle, il ne va même pas à la micro-territorialisation. C'est un schéma qui dit essentiellement les grandes infrastructures qui dépendent des régions, à la fois le fer, les routes d'intérêt régional, les aéroports et les gares. Les pôles gares sont des grands sujets portés collectivement entre les collectivités territoriales, mais le schéma écrit ça de telle façon que les collectivités derrière sachent où la région mettra ses équipements et donc apportera les moyens financiers pour tel ou tel type d'équipement où la région ne voudra pas le faire. Donc il y a un schéma régional d'aménagement du territoire et environnement. Environnement pourquoi ? Parce que les grands parcs, les NDS, les Natura 2000, les protections des captages, enfin tout ça peut figurer dans un schéma en même temps que comme la région est chargée du plan régional de traitement des déchets, en même temps, il peut y avoir, par exemple, une plateforme de traitement de déchets dangereux qui figure dans le schéma. Et le schéma est opposable. Et c'est pour ça que ça a été difficile, parce que le mot tutelle revenait forcément tout le long du débat, mais dans la mesure où c'est sa compétence, où en plus elle a les outils de la compétence, je parle en termes d'infrastructure, donc on a réussi à faire passer un schéma à une condition, c'est que l'ensemble des collectivités concernées aient été consultées, et qui est un vrai débat, il y aura quelques difficultés. Je pense que le premier mandat va être difficile et qu'on risque d'avoir des schémas un petit peu trop légers et qui ne vont pas assez loin dans les déterminations. Par exemple, je ne sais pas moi, sur l'énergie, des parcs d'éoliennes, mais on peut avoir des grandes zones sur lesquelles on demande aux maires d'interdire de construire parce que ce sont des zones d'intérêt régional. Il y aura sans doute des difficultés, mais on les prend comme un facteur de débat, et puis il faut bien que quelqu'un tranche. Donc, elles ont ces compétences-là, et derrière, elles en ont une autre, celle de pouvoir adapter la loi. Et donc, c'est le fameux pouvoir réglementaire des régions, dont on a tant parlé, et qui a été très difficile à rendre populaire, au sens compréhensible par l'ensemble des élus locaux et de ceux qui s'y intéressent, parce que dans la Constitution, vous avez effectivement le mot « expérimentation ». C'est-à-dire que l'expérimentation est possible, l'État peut transférer une compétence à une région ou à une collectivité, à une condition qui est écrite et décrite, malheureusement, qui est que si il y a 5 ans, si au bout de 5 ans ça marche, alors il faut passer la compétence à toutes les régions de France. Or, c'est justement le contraire de ce que demande l'ensemble des régions de France et surtout de ce que je voulais porter en ministre de la décentralisation parlant d'organisation institutionnelle de notre République, puisque je voulais faire passer dans notre droit que, outre que notre société devient une société du contrat avec la conférence territoriale de l'action publique et la possibilité de déléguer des compétences en infra-régional, notre société reconnaît la diversité des territoires. Et donc, une compétence demandée par l'un ne va pas forcément intéresser l'autre. L'exemple en Bretagne a été une délégation sur la culture régionale, mais aussi l'exemple qui est en train de se bâtir en ce moment même, qui est la gestion de l'eau. Non pas de l'eau en termes de distribution d'eau potable, comme le président de la SPL pourrait vous expliquer mieux que moi, mais la protection de la ressource. Et donc, aujourd'hui, la Bretagne bâtit avec l'État une délégation de protection de la ressource en eau, avec l'organisation des bassins sur lesquels elle peut intervenir en animation des différents acteurs pour aller vers des interdictions qui seront partagées entre l'État et elle. Et ce pouvoir réglementaire est un pouvoir qui a beaucoup ému, c'est le mot, je dirais, les plus jacobins de nos parlementaires. C'était vraiment toucher à la loi, toucher à la loi fondamentale même, mais toucher aussi au rôle du Parlement qui voyait à un moment, se voyait voter une loi dont l'application pourrait être différente. C'est pour ça qu'on a bien pris précaution avec le Conseil d'État et le secrétaire général du gouvernement d'écrire que cette compétence déléguée par l'État, naturellement, n'est pas déléguée définitivement. On avait une expression entre nous, c'est une délégation élastique, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, on la reprend. Mais surtout, regardez comment elle s'applique. Donc à chaque loi qui sera votée au Parlement désormais, il y aura une possibilité de dire sur tel article ou sur tel autre, c'est un article dont l'application peut être différenciée à la demande des régions. Un exemple simple qui fait couler beaucoup d'encre, j'ai lu quelques articles, même si ça n'a pas éclaté comme on pensait, il y a eu un rapport du Sénat avec une sénatrice bretonne, Odette Herviaux, et puis M. Nègre, qui dit que la loi littorale et le code de l'urbanisme s'appliquent mal aux petites communes ruraux littorales, en particulier, ou aux petites communes rurales, parce que comme sur les communes ruraux et littorales, vous avez la bande des 100 mètres, etc., un certain nombre de règles qui s'appliquent, vous avez d'anciens hameaux qui ont plein, permettez-moi l'expression horrible, c'est celle qu'on utilise, elle est moche, mais c'est ça, de dents creuses. Donc on ne peut pas construire sur des parcelles qui ne servent à rien, puisque les paysans ne peuvent pas les travailler. Et dans le même temps, on crée des bandes d'urbanisation sur une deuxième ligne, qui est en général, et c'est le cas de la... Moi, quand j'étais petite, vous n'avez pas appris ça, vous, mais quand on était petit, on appelait ça la ceinture dorée de Bretagne, qui est la deuxième bande de terre qui est extrêmement intéressante en termes d'agriculture. Mais on construit sur cette bande-là parce qu'on ne peut pas construire sur la première, qui, elle, ne l'est pas intéressante, puisqu'elle est déjà mitée de ces anciens villages qui avaient été faits avant 1975, la naissance de l'application d'un droit d'urbanisme spécifique au littoral. Donc, sur ce sujet, par exemple, nous sommes en train de discuter pour savoir si on peut adapter la loi littorale à cette question majeure de la protection des terres agricoles, avec quelque chose qui fait peur, c'est la spéculation foncière. Donc il faudrait qu'on puisse zader, en fait vous connaissez les ZAD, bloquer toutes les zones en question pour que le prix des terrains ne monte pas, qu'il n'y ait pas de spéculation, mais qu'on puisse y construire. Et on se heurte en ce moment, et c'est pourquoi ce n'est pas toujours dans notre droit, mais je vous montre ce que peut être une demande d'expérimentation, au fait qu'il ne faudrait pas que ces terrains deviennent des rentes extraordinaires pour certains ou des lieux de spéculation. Moi, je fais confiance aux maires, tout le monde ne leur fait pas confiance, donc il faut qu'on puisse écrire des règles d'adaptation. Ce serait l'adaptation possible, par exemple, en Bretagne, de la loi littorale, qui ne serait pas acceptée en PACA, parce que c'est plus la peine, il n'y en a plus, de toute façon, d'endroits, tout est déjà bétonné, donc, mais qui pourrait s'appliquer sur une petite partie du Languedoc-Roussillon, où il y a effectivement quelques endroits, quelques villages qui pourraient être densifiés. Pourquoi je vais très vite sur le fait générateur de cette histoire, c'est qu'on sait tous qu'entre 2030-2050, on va avoir un gros problème d'indépendance alimentaire, on va arrêter de transformer les protéines végétales en protéines animales, parce que heureusement, les gens vont garder leurs protéines végétales, ils vont augmenter leur consommation, et c'est une très bonne nouvelle. Donc on sait qu'on va avoir un énorme problème d'indépendance alimentaire, donc du coup, on commence à réfléchir à la protection des terres agricoles. Donc voilà une expérimentation qui pourrait être faite, et in fine, quand ce pouvoir réglementaire est écrit, eh bien, il repasse au Parlement, c'est soit une ordonnance, soit un texte, mais ce sera principalement une ordonnance qui permet à chaque parlementaire de prendre, d'ailleurs, en compte ce qui a été fait d'une part, et d'autre part, de donner son approbation ou pas. Donc voilà pour les régions. Il faut que j'accélère, non? Il y a tellement de trucs, tellement de sujets. Donc, les régions restent déterminantes sur l'organisation du territoire, sur le dialogue avec l'État et l'Europe, mais aussi sur le développement économique, l'enseignement supérieur, la recherche, les transports, les déchets et tout ce qui concerne la biodiversité. Et en revanche, elles n'ont pas eu l'énergie, parce que c'était impossible de sortir du débat entre production et distribution. Donc, je dis comme je le pense, sur ce point, on a échoué. Et on a échoué, à mon sens, sur un autre sujet qui est le tourisme, parce que je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut garder le tourisme. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre cette motivation de la majorité des députés, de la majorité des sénateurs. On voulait garder le tourisme quasiment à tout le monde, alors qu'aujourd'hui, dans le tourisme, il y a la création des produits et l'aménagement du territoire qui va avec, mais... et l'aide aux entreprises, mais voilà, c'est comme ça, donc tout le monde peut s'occuper de tourisme avec, j'espère, des fusions entre les comités régionaux du tourisme et les comités départementaux du tourisme qui ont moins de pouvoir qu'avant, et puis sans doute, et j'y reviendrai, aux intercommunalités un rôle plus fort. Nous avons gardé au département son rôle essentiel, c'est la solidarité. Je crois qu'il faut... nous avons un modèle en France, et l'organisation territoriale de la République avec les compétences décentralisés, sont dans un modèle. Et dans ce modèle, il y a effectivement, dans les politiques publiques, dans l'action publique, l'aide aux individus de façon explicite et écrite, d'ailleurs, depuis le Conseil national de la résistance, ou presque, qui a été aménagé depuis, avec l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en situation de handicap, et le fameux RSA, Revenu de solidarité active, qui existe depuis quelques années. Donc, les départements continuent à porter tout ce qui est solidarité envers les individus. Il y a un gros souci. Si, dans les concours, je ne sais pas, il faudra vérifier, on vous demande de débattre, il y a un souci majeur, c'est qui paye la solidarité. Quand vous dites département, vous savez qu'il y a une participation de l'État pour l'aide aux personnes âgées, donc l'aide à l'autonomie des personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en situation de chômage, donc de solidarité active. Mais l'État ne verse à peu près que 30%, et encore peut-être pas cette année, 30% de ses allocations de solidarité. Or, ces allocations de solidarité sont obligatoires, c'est-à-dire que le département ne peut pas avoir ses propres règles. Les règles sont nationales. Et c'est un vrai sujet. Comment se fait-il que dans la décentralisation, on a gardé des allocations qui ont des règles nationales, qui sont votées tous les ans dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et c'est les départements les portent. Et c'est Pierre Maille, d'ailleurs, au sein de l'Association des départements de France, qui le premier avait soulevé la question, c'est la solidarité est-elle payée par l'individu, avec un ticket modérateur en fonction de ses revenus, par la famille, c'est l'impôt sur les successions, par l'assiette départementale, c'est aujourd'hui le cas, l'assiette fiscale départementale, par les DMTO, les dotations sur les mutations, c'est-à-dire que quand vous achetez ou vous vendez un bien, vous payez, alors ce n'est pas des frais de notaire, il ne faut pas se tromper, vous payez une cotisation en fait à la solidarité, ou est-ce l'impôt sur le revenu à la CSG de porter ces grandes solidarités. On est resté là, aujourd'hui, au département. Ce qui veut dire que c'est porté par une part de l'État, 30%, un peu moins sans doute, une part impôt départemental et une part DMTO, puisque vous savez, enfin, ou vous ne savez pas, que nous avons donné l'autorisation au département via le Parlement d'augmenter ces DMTO, donc surtout les transactions immobilières de leur territoire, avec une injustice profonde. C'est que quand vous vendez une maison de 100 mètres carrés à Morlaix, ça coûte 90 000 euros. Et quand vous vendez dans le département 75, qui est devenu la commune de Paris, le même 100 mètres carrés, ça vaut 3 millions. Je ne sais pas, mais ça vaut cher. Donc il y a un vrai sujet d'équité. Et du coup, je vous le dis, parce qu'entre aujourd'hui et tous les concours, il y a 3 mois de discussion entre l'État, à la demande de Manuel Valls, et les départements de France, pour savoir si le revenu de solidarité active n'est pas repris par l'État au titre de la solidarité nationale. Donc c'est un débat qui a commencé. On a installé les groupes de travail il y a de cela un petit mois. Et on doit, pour fin mars, discuter avec le Premier ministre un certain nombre d'hypothèses. qui seront naturellement documentés par Bercy pour voir si c'est possible en termes, ce que ça coûterait en termes d'impôt sur le revenu. Toutes les hypothèses sont sur la table, toutes. En revanche, volontairement, le Premier ministre n'a pas voulu ouvrir de façon publique, forte, l'allocation d'autonomie des personnes âgées, parce qu'on sait bien que quand on dit qu'on ouvre le débat, les personnes âgées pensent qu'on va leur retirer quelque chose. Donc socialement, il n'a pas mis la part sur la table, mais on est un certain nombre à penser que, à situation totalement égale, la part n'est pas juste aujourd'hui. Donc il faudra aussi se poser des questions. Donc en fin mars, une décision sera prise, soit de reprendre la compétence RSA, versement du RSA, soit de les laisser au département. Mais les départements ont une compétence supplémentaire qui est liée d'ailleurs aux conséquences de la baisse des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires sur le territoire français, c'est la lutte contre les inégalités territoriales. Et les inégalités territoriales sont de deux ordres, bien sûr, elles peuvent être d'ordre démographique, et là, les moyens sont, des départements ne sont pas appelés. En revanche, les inégalités passent aussi par le fait qu'une collectivité, une petite commune, même dans une grande communauté de communes, n'a pas de personnel suffisant à disposition. Elle n'a pas d'ingénierie pour, par exemple, répondre à un appel à projet, une manifestation d'intérêt, que sais-je encore, ou bien même porter des projets jusqu'au bout. Parce que l'élu, lui, il n'est pas élu parce qu'il est compétent, pour construire quelque chose. Donc l'ingénierie territoriale solidaire va être confiée au département. C'est-à-dire mettre à disposition de ceux qui n'en ont pas de l'ingénierie. Et donc il faut qu'il y ait une discussion au niveau des départements pour le financement de cette ingénierie territoriale. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour puisque c'est publié le 9 août et donc un certain nombre de départements ont déjà commencé à recruter les équipes, sinon redéployer des équipes qu'ils avaient auparavant sur le développement économique. Et donc, les départements sont en charge de l'ingénierie. Ils ont absolument voulu garder les collèges et les routes. Ça, c'est leur problème. Je veux dire, ce n'est plus le mien. C'était leur demande et ils l'ont gardé. Enfin, j'avais très vite, parce que je dois être au bout, non, de l'heure. Parce qu'il y a débat, on m'a dit qu'il fallait que je garde du temps. Ça va? Pour le débat, le troisième volet, c'est forcément le bloc communal. Et je dis bloc communal puisqu'il s'agit, non pas, comme j'ai entendu l'autre jour, de devenir moderne en supprimant les communes et en éteignant les lumières, mais on garde les communes avec le rôle spécifique du maire que vous devez savoir, hein, qui est un représentant de l'État sous l'autorité du préfet, mais qui est aussi un représentant de l'autorité judiciaire sous l'autorité du procureur, et il est le seul à avoir cette fonction. Donc on garde les communes avec le maire, donc je n'attaque pas les maires de France, et en revanche, on pousse à des intercommunalités plus fortes. Le débat a abouti, moi je voulais qu'il n'y ait pas d'intercommunalité de moins de 20 000 habitants, tout obstant les communes, les grandes zones démographiques et de montagne, mais bon, on est arrivé à une cote assez bien taillée, il est porté à 15 000 habitants, donc on ne peut plus, sauf si on est en zone de très faible densité, 50% inférieure à la moyenne nationale, ou si on a plus de la moitié de ces communes dans une zone de montagne, où là on peut faire 5000 habitants, pour des raisons de géographie essentiellement, parce que moi je suis allé avec les élus de la Barou, c'est vrai que en allant chercher les 15 000 habitants, il fallait pratiquement aller chercher sur l'autre vallée, donc c'était pas possible. Donc du coup, on a pris 15 000 habitants comme la plus petite interco possible en milieu moyen, et 5000 en milieu de montagne ou de très faible densité. Ce qui est intéressant à constater, c'est qu'en dehors de quelques départements rares, peu le nôtre quand même, mais ça dépend peut-être de l'engagement des uns et des autres, les collectivités vont beaucoup plus loin que prévu. Le département des Côtes d'Armor avait 30 intercos, il en aura 9. On va à peu près, on avait 2000, alors je ne suis pas sûre de mon chiffre, il faut regarder sur les chiffres parce que je ne sais jamais celui-là par cœur. On avait 2133 ou 233, je ne sais plus, interco, il faudra regarder le chiffre exact. On a présenté via nos préfets la suppression, entre guillemets, de 900 d'entre elles. Je pense que compte tenu du pouvoir qu'on a laissé aux conseils départementaux de la coopération intercommunale, les fameux CDCI, on doit en supprimer à peu près 700. Au pire, on en supprimera 700. Et en demandant bien évidemment qu'il y ait des compétences obligatoires, avec des compétences obligatoires qui ont été discutées longuement, je crois que ça a dû prendre plusieurs heures. En particulier, on a gardé bien sûr la compétence développement économique, les autres sont volontaires, mais celle qui a fait le plus débat, c'est l'eau et l'assainissement, qui deviendra une compétence obligatoire au 1er janvier 2020, et qui, entre-temps, bien évidemment, reste une compétence possible puisqu'elle est optionnelle, mais c'est vrai que c'est celle qui a été le plus discutée parce que les systèmes sont différents. Certains sont en régie, d'autres en SPL, d'autres ont confié leur gestion des SP à des services, à des entreprises privées, et tout le monde... C'est le cabinet qui me posait une question et j'ai répondu dans un français bizarre, mais c'est normal. J'ai répondu avec un doigt, donc ça n'a pas marché. Et on avait donc cette espèce d'anxiété de dire, mais comment moi je vais faire, moi qui suis en régie, pour prendre celui qui n'est pas en régie, etc. Donc quand on fait constat de telles difficultés, on les prend en compte. Et donc ces compétences seront à transférer au 1er janvier 2020, avec une carte qui sera proposée par le préfet aussi. Et on compte d'ailleurs, le rôle que l'État s'est donné via ses préfets, c'est d'encourager au maximum de suppression de syndicats locaux. C'est-à-dire que ces compétences nouvelles des intercos sont essentiellement des compétences, je pense aux déchets par exemple, qui étaient exercées par des syndicats locaux. Et pourquoi on veut supprimer des syndicats locaux? C'est pas parce qu'on n'aime pas les présidents, comme diraient certains à l'Assemblée des maires de France, c'est parce qu'il y a 17 milliards de dépenses dans les syndicats en France, mais il y a 9 milliards de fonctionnaires. Et ce n'est pas les élus qui coûtent cher. Parce que les élus, c'est 80 millions d'euros sur l'ensemble. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais le fonctionnement, et quand on regarde ce fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aurait les personnels dans les métropoles, dans les intercos, dans les communautés de communes, quelles qu'en soient, ou des communautés d'agglomération, pour gérer la compétence. Alors, il y a des petites choses souriantes. C'est que quand vous avez distribué après les élections les postes de maire adjoint et les postes de président, de vice-président de la communauté de communes, et qu'il y en a un qui n'a rien eu, alors il devient président d'un syndicat. Mais je pense que comme on est moderne et tout ça est derrière nous, on va pouvoir rationaliser les choses autrement qu'en pensant à ces situations, mais qui sont humaines. Il faut toujours prendre en considération les situations humaines aussi. Donc, des compétences obligatoires majeures, donc je vous donnerai, alors vous aurez la liste détaillée, mais je vous parle toujours d'abord de celles qui ont fait le plus débat et qui ont le plus impressionné les parlementaires et les associations d'élus. Je vous parlerai un tout petit peu des associations d'élus et leur organisation en France en fin de propos. Donc, essentiellement, 1er janvier, promotion du tourisme, et vous verrez, c'est promotion du tourisme. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme chacun veut garder le tourisme, on est obligé de trouver des mots, qui en droit, d'ailleurs, les juristes qui sont là doivent se creuser la tête pour savoir exactement ce que veut dire promotion du tourisme. Les créations d'offices du tourisme, en revanche, deviennent intercommunaux, avec une seule exception, c'est ceux qui portent une marque. Par exemple, la plus populaire, Courchevel. Est une marque. Donc, il y aura une possibilité d'avoir un office de tourisme là où il y a une marque. Parce qu'en général, la marque a été déposée. C'est essentiellement des stations de ski qui sont concernées. La collecte et le traitement des déchets, beaucoup le faisaient. Et là, ça deviendra donc obligatoire beaucoup plus vite, puisque ça devient obligatoire dès 2017, comme l'accueil des gens du voyage. Et ça, c'est important parce qu'on revoit ces règles, et on voit bien que c'est un problème que les parlementaires appelaient de patate chaude, tout le monde se les renvoie. GEMAPI qui deviendra, alors GEMAPI c'est une compétence qui a été créée par une proposition de loi au Sénat, qui a été reprise bien évidemment dans la loi, et qui est tout ce qui concerne la protection des inondations. Vous savez qu'on était aux périodes post la faute sur mer et les grands problèmes de cette côte atlantique, en même temps qu'un certain nombre d'inondations que vous avez peut-être entendu parler, dont vous avez entendu parler dans les Hautes-Pyrénées, le Gard, l'Aube et l'Hérault. Et donc, cette compétence devient obligatoire au 1er janvier 2018. Elle concerne, par exemple, la métropole de Brest sur la gestion du bassin. Et donc, il va falloir travailler parce qu'on a eu tendance à reporter tout le temps les responsabilités de droit sur l'aval, et malheureusement, les drames arrivent sur l'amont, pardon, et les drames arrivent sur l'aval. Donc, on a, après beaucoup de réflexions, donc, créé et donné cette compétence aux intercos. Et au 1er janvier 2020, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, l'eau et l'assainissement. Donc, on voit bien, en ce moment, se déroule, je ne sais pas si vous lisez la presse quotidienne régionale, c'est parfois intéressant, mais vous devez avoir une bibliothèque qui classe un peu peut-être ces articles-là pour vous, bien que vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Ouais. C'est intéressant de lire, parce qu'on voit bien les motivations des uns et des autres. Motivations très justes, parfois, motivations d'histoire, motivations de désamour entre les élus, motivations de géographie, enfin, on a vraiment... Enfin, moi, j'en regarde quelques-unes hein, de toute la presse quotidienne régionale française. Et franchement, on trouve... c'est là qu'on touche du doigt la différence entre les territoires, entre leur histoire. En Bretagne, par exemple, on a toujours été intercommunaux. Les Civom, ici, existaient depuis les années 70. Donc, il n'y avait pas de souci. On savait ce que c'était que la coopération intercommunale. La première couronne autour de Paris n'avait pas d'intercommunalité pratiquement. Pratiquement, il n'y en avait pas. Et ils avaient été en plus exclus de la loi de 2010 qui obligeait déjà à 5000 habitants minimum. Donc on a des territoires, en particulier les plus anciens, les plus conservateurs, les plus archaïques, c'est Paris, hein, de ce point de vue, bien évidemment. Je ne me permettrai pas un jugement de valeur sur les autres fonctions de la métropole du Grand Paris. Mais on voit bien qu'il y a des élus qui sont désemparés parce qu'ils n'ont jamais coopéré, jamais. Parce qu'ils avaient des cassettes en plus, donc quelques sièges sociaux. Et moi, je connais une commune qui avait 80 millions de réserves à la fin de l'année 2013, après avoir dépensé au maximum et se demander comment on pouvait faire une autre piscine, vous n'avez pas la place. Donc il y a ça, c'est une réalité de l'hyper-richesse qui côtoyait de l'hyper-pauvreté. Et donc la grande difficulté tout d'un coup a changé de façon de lire, même de lire la France tout simplement. Roissy, pour aller travailler à Roissy, quand on habite à vol d'oiseau, à 15 km de l'autre côté de la ligne du TGV, il faut aller à Paris pour pouvoir aller travailler à Roissy. On n'a jamais imaginé qu'on pourrait travailler ensemble, créant des emplois à Roissy pour des gens qui habitent, je ne sais pas, moi, au Gonesse, ou bien en Seine-Saint-Denis, ou dans le Val d'Oise. Donc, il n'y avait pas du tout cette coopération. Donc, il y a des grands débats... Je suis appelé en médiateur, conciliateur, cocooning, comme on dit quelquefois, parce qu'on est obligé de porter un peu tout ça. Mais c'est assez étonnant, surtout pour quelqu'un qui vient de Bretagne, de découvrir à quel point, comme je disais à l'ancien maire de Paris, si vous voulez apprendre à gérer un peu l'intercommunalité, vous n'avez qu'à passer par Bottener, ça se passe bien mieux qu'à Paris. Quoi. C'est voilà. Donc des grandes discussions en ce moment même. Et donc pour le 1er janvier, on aura nos cartes, elles seront opposable au printemps, et c'est pourquoi d'ailleurs on a reporté la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui n'interviendra qu'après la fin des cartes intercommunales. Donc l'intercommunalité est très honnêtement sur tout ce qui est développement, organisation de la vie, aménagement du territoire en dehors de l'ingénierie, on voit bien qu'est en train de se construire un couple région-interco. C'est ce couple-là qui va fonctionner sur la vie. L'interco, c'est le bassin de vie. C'est-à-dire qu'on a pris, nous, pour trouver les 20 000 habitants, on avait pris avec l'ancienne DATAR devenue CGET, on avait pris des exemples dans tous les bassins de France sur le logement, le travail, les courses, les enfants, le lycée. Et on voyait bien que ça nous dessinait des bassins d'à peu près 20 000 habitants. Donc, un couple région-interco avec un outil de solidarité, y compris territoriale, qui est donné au département, et une obligation qui sera partagée entre le département, donc discussion avec les intercos, et l'État, qui est d'avoir des schémas départementaux de services publics. Parce qu'il existe aujourd'hui, alors moi je défends le service public, hein, mais ça fait partie aussi d'un... un corpus politique. Tout le monde n'est pas obligé de défendre le service public. J'appartiens à un gouvernement qui le fait. Et je dois dire qu'on a été suivi au Sénat, même lorsqu'il a changé de majorité. Donc je pense que c'est très consubstantielle de la pensée politique française, et en tout cas du pragmatisme français, parce que le bon sens n'existe pas. Mais... Donc on va faire des schémas départementaux de services publics, parce qu'on voit bien qu'il existe une forme de sentiment d'abandon des gens. Et souvent, ça se produit après la fermeture de la Poste, qui n'est pas l'État, et après la fermeture de la recette perception, le trésor public. Les gens n'aiment pas le trésor public, généralement, quand il s'agit des impôts. Mais si vous fermez la maison, ça provoque un choc. Et donc, il y aura un schéma départemental de services publics, et on a écrit de services au public. Ça a beaucoup choqué les syndicats, parce que quand on écrit de services au public et non pas service public, ça veut dire qu'on accepte, et nous l'acceptons, de faire entrer dans ces boîtes dans lesquelles on mettra des services, de faire entrer la CPAM, l'URSSAF, la CNAF, mais pourquoi pas un jour la Poste. Et c'est d'ailleurs la Poste, qui n'est pas un service public, mais un établissement public, c'est la Poste qui, aujourd'hui, nous fournit le maximum de locaux pour créer ces maisons de services au public ou ces points d'accès au service public. Donc, en même temps que la loi, et on l'a mis dans la loi, donc il y a cette obligation des schémas départementaux de services publics qui nous permettra d'avoir une vraie écriture de l'accès aux services publics, parce qu'il ne sera jamais que numérique. Il sera aussi d'échange. Le service public ne peut pas être que numérique, même s'il le sera de plus en plus, il faut l'espérer. Il faut qu'on ait ces endroits où les gens peuvent échanger et toucher les représentants de l'État ou des collectivités territoriales. Et je conclue là-dessus, parce que c'est tellement long et il faut laisser la place. On a fait tout un chapitre sur ce qui porte le service public, et qui est le chapitre sur les personnels. On a fait un chapitre sur la transparence financière, le rôle accru des chambres régionales des comptes. Là-dessus, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ordonnateur et un comptable dans nos collectivités territoriales, et un contrôleur, qui est la chambre régionale des comptes, avec un rôle aussi particulier des services de l'État, des DGFiP, pour dire que celui qui sait l'équilibre d'un budget, qui sait... mais qui aussi est un centre de ressources parce qu'il a un certain nombre de renseignements sur les taux d'intérêt, sur ce qui va advenir ici ou là, doit être au service des collectivités locales. Ça, c'est toujours un peu difficile à faire passer. Il n'y a pas seulement l'ordonnateur et le comptable, il y a aussi celui qui aide, celui qui accompagne, celui qui porte. Outre ça, et le contrôle de la Chambre régionale des comptes, on a fait tout un chapitre sur les personnels parce que nous n'avons pas les mêmes régimes indemnitaires dans les collectivités territoriales. Vous savez tous, la fonction publique en France, ce n'est pas une fonction publique d'emploi, c'est une fonction publique de carrière. C'est-à-dire qu'on vous garantit une carrière, mais on ne vous garantit pas un emploi. Donc, si votre emploi est supprimé, vous devez en changer ou quitter la maison service public sans indemnité d'ailleurs. Donc, pour assurer tout ça, il fallait retrouver une forme de sérénité de nos agents sur l'ensemble des collectivités territoriales qui étaient effrayés par le fait que ce soit sur la fusion des régions, ou bien les transferts de compétences, l'augmentation des compétences des intercos, se disaient, mais moi, je suis dans la commune où il y a le plus fort régime indemnitaire, on va peut-être faire une moyenne. Donc, chaque fonctionnaire garde la situation qu'il a au moment de la fusion ou du transfert de compétences, donc en termes de régime indemnitaire et en termes de protection sociale. Pourquoi on a mis protection sociale? Parce que la protection sociale est la plus faible est celle des fonctionnaires. En général, dans le privé, je dis bien en général, en tout cas pour 47% des employés des petites, des TPE et 77% des salariés des groupes, vous avez toujours une complémentaire, une mutuelle, un service de protection, enfin une protection sociale, quelle qu'en soit la nature, que les fonctionnaires n'ont pas. Sauf quelques-uns, parce que leur collectivité a décidé d'accorder ce droit et de cotiser pour eux à un régime de complémentaire, par exemple. Donc ceux qui ont ça partiront avec. On a appelé ça le sac à dos. Chacun part avec ses droits. Donc, il y a tout un chapitre, bien évidemment, sur les personnels des collectivités locales. Et moi, dans le même temps, en tant que responsable de la fonction publique, j'ai eu à porter donc, une grande négociation avec l'ensemble des personnels de la fonction publique sur d'abord la déconcentration. C'est-à-dire comment on allait déconcentrer les services publics de l'État face au regroupement des régions. C'est-à-dire bouger le moins possible, mais faire bouger des personnels. Il y en aura qui bougeront, mais il y a des mobilités géographiques, on sait y faire face, on a même écrit comment on y ferait face avec des aides financières, mais aussi des mobilités fonctionnelles. C'est-à-dire comment on encourage les mobilités fonctionnelles, comment on permet à des gens de l'État de passer dans une collectivité ou l'inverse, ce qui se fait beaucoup moins d'ailleurs. Bon, tout ça a été écrit soit dans la loi pour les personnels territoriaux et la garantie des régimes, soit dans une négociation qui s'est appelée parcours professionnel, carrière et rémunération, qui n'a pas été signée par la majorité des syndicats, mais par 59% pour les... Tiens, c'est vrai, si je le bouge, on entend mieux. 59% pour l'État et 47% pour les collectivités territoriales et l'hospitalière, je crois. Donc ça fait à peu près 49,7%. C'est-à-dire qu'en même temps, on a réécrit les carrières. Les carrières seront plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on va augmenter les gens au début de carrière et à la fin de carrière, mais la carrière sera plus longue. Et au lieu d'embaucher un prof, comme ce serait passé au 1er janvier 2018 au SMIC, on va quand même l'embaucher un peu plus, puisque ça fera 1 680 € brut. Donc on a réécrit l'ensemble des rémunérations, des évolutions de rémunération dans le même temps. Parce que ce que ne sait pas la majorité des populations, c'est que le gel du point d'indice pour les fonctionnaires a permis à l'ensemble de la dépense publique de faire une économie de 7 milliards d'euros. Le gel, c'est 7 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. Et souvent, sur les radios, on passe le fait qu'on va augmenter les fonctionnaires, mais on oublie de dire qu'ils ont rendu 7 milliards quand même. C'est pas rien non plus. Voilà. Pour faire court, donc, réorganisation des carrières, des droits à la formation, du management, enfin, de qualité de vie au travail, il y a énormément de choses, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un débat sur l'organisation territoriale de la République et ce qui a été décentralisé à côté, je rappelle, formation professionnelle, gestion des fonds structurels, et ce qui n'a pas été décentralisé, parce que ça a été le point le plus intéressant, et qui est tout ce qui concerne l'éducation. Parce que c'était le débat. Et ce débat s'est conclu par le fait que l'éducation restait de la responsabilité de l'État. Et je peux vous dire qu'après avoir visité les fameuses écoles d'Helsinki, dont on nous dit qu'elles sont les meilleures, et elles sont très bonnes, elles sont très bonnes parce qu'il y a 15 élèves pour 2 enseignants. Un rêve. Mais aujourd'hui, où les collectivités territoriales de Finlande ont des difficultés, elles portent à 100% l'école, il y a de graves difficultés aussi dans le système scolaire et d'inégalités nouvelles. Voilà. Donc maintenant, place aux questions. J'ai plein de choses que je n'ai pas dites. Il n'y a pas de quoi ? Donc vous aurez tout, ce n'est pas la peine de prendre trop de notes, on vous donne tout après en résumé, pour prendre par cœur pour les concours.
Bien, donc à vous la parole, si je puis dire. Donc y a-t-il des questions ? Je vois une main qui se lève là-bas, donc on va...
Oui, alors bonjour. Alors,
bonjour.
Donc voilà, j'ai une question un petit peu longue, mais j'espère obtenir une réponse. Alors, selon le rapport de la Cour des comptes le 12 février 2013, au cours donc de la période passée au crible lors de l'étude. Donc, alors, je m'adresse à vous en tant que ministre de la fonction publique.
Oui.
Donc, selon le rapport de la Cour des comptes du 12 février 2013, au cours de la période passée au crible donc par la Cour des comptes entre 2005 et 2010, les agents d'EDF ont vu leur rémunération augmenter de 3 à 4% par an.
Les agents d'eux ?
D'EDF. Alors, à cela, EDF. Il convient d'ajouter des avantages sociaux spécifiques au personnel des industries électriques et gazières. Le personnel paie son courant à environ 10% du prix public. Le coût de cette mesure est de 129 millions d'euros en 2010. Coût pris en charge par le consommateur final d'électricité. Autrement dit, nous, sachant que nous sommes en période de crise. En plus, il faut encore ajouter la dégradation de la qualité du service rendu par ERDF depuis 2000. De 50 minutes en 2000, ce temps de coupure moyen est monté à 86 minutes en 2009, avant de revenir à 71 minutes en 2011. Et donc finalement, les performances d'EDF diminuent, mais on augmente leur salaire. Sachant que, d'après votre déclaration du 27 mai 2015 sur RTL, vous avez annoncé un gel de l'indice qui sert d'étalon à la rémunération des fonctionnaires. Sachant que le projet du gouvernement précédent de réforme n'a pas abouti, et que François Hollande, lors de sa campagne présidentielle, a indiqué qu'il souhaitait préserver le statut d'EDF. Ma question est donc de savoir si le gouvernement compte prendre des mesures. Alors,
oui.
Ma question et donc de savoir si le gouvernement compte prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces privilèges.
Alors, d'abord, il faut savoir, et attention pour les concours, hein, ERDF, ce n'est pas l'État. On aurait pu s'opposer à la privatisation d'une grande partie du capital. Donc, ce n'est plus l'État. C'est une entreprise, elle est régie par un certain nombre de règles, mais elle a le droit, comme toutes les entreprises de France, à la négociation entre ses salariés et l'entreprise elle-même. Parce que vous savez que, bon, y compris avec Suez après, dans la suite, il y a beaucoup de capitaux privés concernés. Et donc, simplement, ce que l'État dirige en France, c'est le choix des types de production énergétique, en particulier surtout sur nucléaire ou pas nucléaire. Mais comme vous savez aussi, par exemple, les champs d'éoliennes ne sont pas créés par l'État, mais soit par ERDF, soit par d'autres sociétés privées. Et donc, dans ces sociétés privées aussi, et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de ce rapport-là parce que c'était présenté comme des avantages acquis de privilégiés, mais dans une autre société qui est complètement privée, qui est associée, son nom m'échappe, qui a fait le champ d'éoliennes dans les Côtes d'Armor, qui est associée à Aérospatiale et puis à une boîte allemande dont le nom m'échappe à l'instant, mais peu importe, les avantages sont beaucoup plus forts. Donc, on peut supprimer des avantages. La même chose a été demandée pour la SNCF, parce qu'à l'intérieur de la SNCF, par exemple, les personnels peuvent aller 3 fois par an à Paris pour un prix défiant toute concurrence, à condition qu'ils voyagent sur des trains creux, en heure creuse, quoi, qui ne voyagent pas naturellement sur des moments où il y a beaucoup de passages. D'autres sociétés, comme Air France, mais aussi comme Alitalia, KLM, United, etc., d'autres sociétés qui ont des personnels navigants, offrent à leur personnel des billets d'avion à une condition aussi, c'est que, naturellement, ils ne montent dans l'avion que s'il y a des places. C'est les fameux GP d'Air France. Donc, vous avez dans à peu près toutes les sociétés ce type d'avantages. Si on enlève ces avantages-là, il y aura une négociation sociale. J'étais hier soir avec trois grands patrons d'entreprises privées qui parlaient de leurs dividendes et des négociations qui venaient d'attribuer des avantages conséquents à leur personnel en termes de protection sociale et augmentation des crédits du comité d'entreprise pour aller en vacances, etc. Vous aurez toujours ça dans un dialogue social. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement fustiger le privilège des uns, mais à ce moment-là, il faut toucher le privilège des autres. Celui qui est dans une banque et qui bénéficiera du taux le plus intéressant du prêt. Celui qui travaille dans une grande société comme celle dont je parlais hier soir et qui aura un régime complémentaire beaucoup plus intéressant que celui de la boîte d'à côté. Tout ça relève du dialogue social. Si vous touchez à ce qu'on appelait les avantages acquis, les régimes spéciaux, c'est ça qui a créé cette espèce de bagarre. Et moi, je pense aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, c'est-à-dire qu'à force de ne pas savoir ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises françaises, les grands groupes par rapport aux petites entreprises privées. Les grands groupes ont une banque à leur disposition, par exemple, qui est l'ensemble des PME de France. Les PME sont les banquiers. Les grands groupes, ils ont le droit de faire traîner les paiements longtemps. Tant qu'on ne regarde pas ce qui se passe sur l'ensemble des structures de production de produits ou de services, c'est facile de regarder celui-là parce que l'électricité est fournie. Vous pouvez acheter votre électricité ailleurs. C'est-à-dire, si vous pensez que ERDF ne fournit pas la bonne électricité parce que ses personnels la payent moins cher, vous pouvez changer. Hein, aujourd'hui, vous avez ce droit. Vous pouvez changer de boîte. Donc, le marché, la concurrence, doit répondre à la logique des avantages. C'est pour toutes les boîtes de France comme ça. Mais moi, je reste persuadée aussi que dans une société moderne, où par le dialogue on a obtenu certains avantages pour les salariés, et donc aussi en même temps du pouvoir d'achat et peut-être du développement, il faut toujours se poser la question de la boucle de la macro, eh bien, c'est peut-être pas un horizon de vie intéressant que de dire que le progrès, c'est de baisser les rémunérations des salariés. Vous voyez, les fonctionnaires ont leur salaire gelé depuis 2010. Moi, j'en porte l'entière responsabilité. Mais je fais ça parce qu'il y a eu 600 milliards de dettes de trop qui ont été faites et que ces 600 milliards de dettes, il faut bien qu'on les écluse. On ne va pas, nous, responsables, les laisser aux enfants, même si ce n'est pas nous qui avons fait ces dettes-là. On ne les a pas faites. Mais on appelle les fonctionnaires à notre à épouser notre vision qui est de ne pas baisser la dette pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais ce n'est pas une décision agréable. Ce n'est pas une décision agréable parce que les fonctionnaires, quand on paye un prof au SMIC plus 7%, ce n'est pas un privilégié. Les fonctionnaires ne sont pas privilégiés. Et je pense que les ingénieurs de RDF sont payés moins qu'un certain nombre d'ingénieurs des entreprises privées que je connais et qui débutent à 5 000 euros net par mois. Oui, ce n'est pas forcément là que vous allez trouver les choses les plus choquantes. Ou ce n'est pas plus choquant que de payer un trader, 25 000 euros le jour de son embauche. Tout ça peut être discuté. C'est un corpus de rapports sociaux. Et je crois qu'aujourd'hui, on vous balance ça, et on balance ça parce que c'est facile, et parce qu'on ne regarde pas le reste. Hier soir, j'ai vu un magnifique film sur le lien entre les dividendes et la protection de la planète. Et il se trouve qu'après, on avait un dîner de débat qui n'était pas débat, d'ailleurs, et avec des grands patrons qui disaient « Oui, mais tant pis, quoi. » Voilà. C'est un corpus de rapports sociaux. Et toujours dire que la réforme, ce qui est moderne, c'est ce qui fait mal, je ne suis pas sûre que ça porte un pays. Je ne suis pas sûre que ça porte un pays. Donc il faut aussi donner de l'espoir aux gens. Passer sa vie au service de l'État ou d'une collectivité territoriale, c'est s'engager. On l'a vu malheureusement la semaine dernière. Et pourtant, les gens sont mal payés et continuent à le faire. Et on a vu tous les personnels hospitaliers publics arriver en courant alors qu'ils étaient en congé. Donc voilà, il faut regarder ce qu'est l'ensemble des rapports sociaux. Et si vous estimez, ou si on estime que RDF c'est trop cher, on change de boîte puisque maintenant on peut le faire.
Pour donner un point de comparaison pour la SNCF, il faut savoir qu'il y a encore 20-30 ans, il y avait une gratuité absolue pour les employés.
Il y avait quoi ?
Une gratuité absolue pour les employés,
oui,
je crois.
Maintenant, non, il n'y a plus.
Et il y avait même possibilité, leurs enfants bénéficiaient en plus de très souvent de cette gratuité, et il était prévu dans la convention, 20 voyages à l'étranger gratuits par an.
Ouais, mais ça, il n'y a plus.
Donc, alors ça, il n'y a plus, parce que là, il n'y a plus que 3.
Il y a 3 voyages à l'étranger, voilà. Il y a 3 voyages en France par an pour leurs parents, parce que moi, je suis mère de cheminots, et je peux vous dire que je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas l'occasion, et que l'État me permet de voyager dans de bonnes conditions, mais il y a 3 voyages par an, à condition que vous les fassiez les allers-retours en moins de 48 heures, je crois.
Ouais. Donc,
ça existe aussi.
Ce que vous appelez des privilèges et qui nous ramèneraient à l'ancien régime, ne sont que de
maigres. Il y a des privilèges énormes. Vous voyez, si vous regardez tout, est-ce que certains doivent avoir une voiture et un chauffeur? Là, on me disait l'autre jour, il faut supprimer la voiture et le chauffeur au préfet. Me disait un patron. Je lui dis, mais quand tu auras supprimé la tienne, parce qu'il était dans mon ministère, je lui dis, va voir les voitures. On se connaît depuis longtemps. C'est le jour où il y avait 2 magnifiques Mercedes. C'était une voiture de société. Mais il m'a dit, je m'étais jamais posé la question. Parce que c'était évident que lui, il fallait qu'il ait une voiture et un chauffeur pour travailler dedans avec son téléphone et son ordinateur, mais que le représentant de l'État, lui, pouvait attendre 2 heures avant de répondre au téléphone. Mais il faut faire attention. C'est une espèce de spirale qui montre toujours et qui ne montre pas tout. Donc, c'est, je vous dis, corpus de rapports sociaux, évolution d'un pays. On a aussi des congés. Est-ce que c'est bien ? C'est pas sûr. Tout est discutable. Hein, tout est discutable.
Bon. D'autres questions ? Ou remarques ? Allez, non, ne soyez pas timide.
Il n'y a pas de questions, je n'ai pas tout dit. Hein.
Profitez parce que bon.
Faites gaffe alors, vous allez être coulé.
Tout de même, oui. C'est pas tous les jours que vous avez quelqu'un qui quand même fait la loi et plus particulièrement bien informé. Donc posez les questions. En attendant que l'inspiration vous vienne, je voudrais revenir un peu sur l'expérimentation dans les nouvelles formes de compétences. Vous pourriez, enfin, j'ai du mal.
Parlez comme ça parce que je ne sais pas, vos micros ne sont pas très bons.
Non, ils sont particulièrement bons. Donc,
voilà, comme ça.
Voilà. Ah, c'est mieux, là. Oui, je voulais revenir sur la question des compétences et celle de l'expérimentation. Je crois que vous y avez fait allusion, mais si vous pouviez revenir quelques instants.
L'expérimentation est dans la Constitution depuis donc, le dernier mandat et après les lois Raffarin. Donc, il y a eu une révision de la Constitution qui dit qu'on peut, par expérimentation, déléguer une compétence. Et l'expérimentation a été très cadrée. Et si, par exemple, la Bretagne qui demande la compétence au là, si on l'a en expérimentation et si ça marche, au bout de 5 ans, on doit donner la compétence à toutes les régions de France. Or, moi, je me suis appuyé sur 2 postulats de départ, mais qui étaient, que vous le croyez réfléchi, qui étaient d'une part que les territoires sont divers et qu'il fallait faire plus de coopération que de concurrence. Et dans la diversité des territoires, je pense qu'il y a des régions qui sont intéressées par l'eau, et vous allez en Midi-Pyrénées actuelle, qui sera Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, l'eau, elle arrive de la montagne, il n'y a pas de danger de ressources, il n'y a pas de pollution de la ressource, elle est de qualité, et effectivement, personne n'a envie d'avoir une compétence supplémentaire, parce qu'il n'y en a pas besoin. En revanche, en Bretagne, où vous avez des nappes souterraines, et même parfois des nappes phréatiques qui sont polluées. Alors là, effectivement, il y a un vrai sujet, que ce soit les pollutions d'origine tellurique pour la mer ou les pollutions pour les nappes, c'est vrai qu'on a un vrai sujet de préservation de la ressource en eau qui est en danger. On a mis en danger, par un modèle agricole imposé à nos agriculteurs d'ailleurs, on a mis en danger notre ressource en eau, et on sait tous que, par exemple, pour une entreprise agroalimentaire, le fait d'être obligé d'enlever les nitrates dans l'eau, et y compris de l'épurer au robinet de l'entreprise, peut faire perdre un point sur la construction des coûts. Et donc ça devient une externalité négative lourde, parce que ça devient plus cher de faire de l'agroalimentaire en Bretagne qu'ailleurs, à cause de la qualité de l'eau, et in fine du prix de l'eau. Parce que si le prix de l'eau est plus élevé, c'est pas parce qu'on donne quelques mètres cubes au président de l'ASPL, mais c'est parce que le traitement est beaucoup plus cher. Donc on a un vrai sujet d'expérimentation. Et l'expérimentation, moi je regrette, mais on n'a pas voulu modifier la Constitution pour ça. Et si on la modifie dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, pour des questions de liberté publique que vous avez vues, qui seraient donc encadrées pour rester dans un état de droit, puisque l'objectif serait effectivement qu'on reste bien dans ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire l'état de droit, on modifiera, on ne va pas mettre en même temps expérimentation. Donc on a appelé ça délégation de compétences. Ça nous permet de déléguer une compétence à une région sans déléguer à une autre. Voilà, c'est la différence. Et on a encore des gens qui nous disent « Mais pourquoi vous n'avez pas accepté l'expérimentation ?» Et je réexplique à chaque fois qu'il y a des régions qui ne veulent pas toutes les mêmes compétences. Donc il faut respecter ce qu'on a voulu, la société du contrat, la société de la diversité, elle est là.
Bien.
C'est un sujet difficile, parce que ça vous enthousiasme pas.
Si, si, mais ils sont timides.
Ils ne sont pas timides.
Une fois amorcé.
Je regarde ce que j'ai pas dit, savoir ce qu'il faut dire.
D'accord. Bonjour, moi je voulais juste connaître, j'ai pu voir dans la presse une forme de proposition de Monsieur Macron sur la prime au mérite des fonctionnaires.
Pourquoi ?
La prime au mérite, l'instauration d'une prime au mérite.
Alors, fonction publique, ça existe. C'est-à-dire que... Allez-y, vous n'avez pas fini.
Non, mais je voulais savoir, est-ce que ce ne serait pas se tromper de... Déjà, avec quel budget on ferait ? Est-ce que donner une prime à quelqu'un, ce ne serait pas en enlever à quelqu'un d'autre ?
Forcément.
Comment ?
Forcément.
Oui. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas... est-ce que ce ne serait pas dangereux d'instaurer des modes de gestion privés pour le service public, voilà, dans la rémunération des fonctionnaires ?
Il y a deux aspects à votre question. Il y a d'abord c'est le statut de la fonction publique. Il y a un statut de la fonction publique. Comme je dis, ce n'est pas une fonction publique d'emploi, c'est une fonction publique de carrière. C'est-à-dire que contrairement à un salarié du privé, à qui on ne peut pas supprimer son emploi C'est-à-dire que s'il y a une modification substantielle de son contrat de travail, il a le droit, soit à la rupture conventionnelle, soit à l'indemnisation, sous une forme à discuter au prud'homme. Donc le salarié du privé, lui, a un emploi. Et on ne peut pas le changer sans son accord. Le fonctionnaire, lui, il a une carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, il a un emploi, mais si on supprime son emploi ou si on en change fondamentalement les tenants et les aboutissants, eh bien, il est obligé d'accepter. Il n'a pas le droit à la rupture conventionnelle. Donc, il faut toujours situer toutes les questions de la fonction publique dans cette très grande différence. Hein, on n'indemnise pas quelqu'un à qui on change d'emploi et quelqu'un à qui on oblige, par exemple, à la mobilité. Hein, donc, dans ce cadre-là, depuis longtemps, les ministères, comme les collectivités territoriales, sont obligés d'appliquer des règles de traitement. C'est l'indiciaire, c'est-à-dire le traitement qui est défini avec les échelons, les grades, dans des grilles qui s'appliquent aux fonctionnaires. Et il y a une part indemnitaire qui, elle, est davantage libre. Non pas libre d'emploi, mais libre, ça va de 3% à 71% à l'intérieur de l'État. Non ? C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai ouvert la négociation dont je parlais il y a quelques minutes. L'indemnitaire, c'est un régime qui est assis sur, soit pareil pour tout le monde à tous les grades, soit effectivement qui avait déjà une prime à la performance. Nous, on a changé les textes sur la prime à la performance parce qu'on avait des vrais sujets qui avaient été posés par les syndicats, qui étaient en particulier la performance d'une équipe. Vous prenez des rippers derrière une benne, comment vous pouvez dire qu'un tel est plus performant que l'autre s'il y en a un qui court plus vite, sinon d'aller courir avec eux, enfin, c'est compliqué. Il peut y avoir... Donc, la performance personnelle est difficile. Donc, on a arrêté ça et on a créé à la place une prime qu'a un nom à coucher dehors, la RISFEL, mais qui est la possibilité pour l'employeur public, qu'il soit l'État, les collectivités territoriales ou hospitalières, de moduler en fonction d'un certain nombre de critères. Et dans les critères qu'il y a aujourd'hui, c'est pour ça que quand Emmanuel Macron a dit « je suis plutôt favorable », il n'inventait pas quelque chose, puisque ça existe, effectivement. Dans les critères, vous pouvez avoir, par exemple, l'absentéisme. Des gens qui ont été absents 3 mois sur l'année, eh bien, auront 4 fois 3, 12, oui, un quart de prime de moins. Après, c'est à l'employeur public d'estimer. Parce que si quelqu'un a eu un accident et qu'il ne peut vraiment pas travailler, ce n'est pas un absentéisme volontaire. Donc après, vous voyez, vous avez tout ça à prendre en compte, ce qui n'est pas simple. Donc nous, on a décidé de changer ça, mais ça va la négociation sur l'application va commencer la semaine prochaine, je crois. Peu importe, bientôt. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la négociation donc, des carrières, des rémunérations, la notion de valeur professionnelle, qui va recouvrir davantage de choses. Bien sûr, l'engagement. C'est-à-dire, l'engagement, ça s'apprécie, même si c'est difficile. Donc là, pour l'instant, on l'a écrit, mais on ne l'a pas décrit. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi, on va le faire avec les organisations syndicales, on n'a pas encore réussi à dire exactement comment on pouvait mesurer l'engagement. Mais les uns et les autres fonctionnaires, parfois souffrent du fait qu'il y a quelqu'un qui a un engagement un peu moins fort que l'autre et que dans ces cas-là, il faut faire le boulot de l'autre. Et c'est ça qu'on veut essentiellement prendre en compte. C'est celui qui vraiment fait le boulot qu'on lui demande avec enthousiasme et celui qui ne le fait pas. Mais dans la valeur professionnelle, il y a aussi le bagage que vous avez, quel type de formation vous avez. On discutait tout à l'heure, est-ce qu'il faut prendre en compte les doctorats, des choses comme ça. Ce que vous avez comme bagage, acquis à l'école, à l'université ou en expérience, et ce que vous allez acquérir parce que vous allez accepter d'aller faire de la formation en dehors de vos heures de travail, des choses comme ça. Donc, et vous allez pouvoir avancer plus vite. Donc, on prend en compte la valeur professionnelle. Et la négociation avec les syndicats est en ce moment donc, sur la table pour voir comment, parce que ça ne peut pas se faire n'importe comment, il faut que ce soit écrit. Que les syndicats soient considérés comme réformistes ou pas, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on écrive pour éviter le privilège, le copinage, pardonnez-moi le mot. Hein, celui qui est bien vu, parce qu'il dit exactement ce que l'autre veut qu'il dise. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. C'est de la relation humaine aussi, hein, la RH. Donc, il faut écrire, décrire, et que ce soit vérifiable par les autres et accepté. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'équipes qui fonctionnent moins bien, parce qu'un tel a été avancé plus vite que l'autre. Alors, c'est soit la faute, entre guillemets, faute de l'employeur, soit aussi l'influence des syndicats, enfin, des choses qu'on voudrait réécrire dans notre histoire de la fonction publique pour que vous ne soyez pas obligé d'être affilié à tel syndicat pour avancer plus vite que l'autre. Il y a des choses importantes à réécrire parce qu'il y a des choses qui font crispation. Et à chaque fois qu'il y a des crispations, même faibles, elles enlèvent de la valeur à l'ensemble de l'engagement de la fonction publique. Donc on va faire ce chantier-là. Le mérite, moi je ne sais pas ce que c'est le mérite. Donc, je sais ce que c'est que l'ordre national du mérite ou le mérite agricole, la chose exceptionnelle. Et je trouve que on va donner une prime à ceux qui étaient là vendredi, c'est normal, ça c'est évident qu'il y a un mérite particulier d'avoir tenu le coup, d'être resté, d'être revenu. Bon, ça c'est facile, enfin facile à faire. Je mets de côté le fait générateur, mais on voit bien ce que ça veut dire. Mais dans le travail quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a préféré réécrire cette histoire. Et donc, on va parler de valeurs professionnelles et avec des critères. Et donc, vous avez intérêt à avoir un meilleur bagage scolaire possible, meilleur engagement. Et le deuxième point qu'il faut qu'on traite, c'est la mobilité des fonctionnaires. Parce que quand un fonctionnaire part à l'étranger, par exemple, quand il revient, on ne sait pas où le mettre. Comme il a été perdu de vue, il n'avance pas aussi vite que les autres, souvent. Moi, je disais toujours, je les trouve dans les fonds de couloir. Un tel qui revient du Vietnam, et bien, il continue à faire de la coopération de l'État, avec l'État vietnamien, parce qu'on ne sait pas bien gérer ça. Et discutant d'ailleurs avec les patrons des grands groupes, puisqu'on discutait de leur RH aussi hier soir, ils ont les mêmes difficultés dans le privé. On ne sait pas bien intégrer tous ces plus acquis par une autre expérience. Donc, on va aussi s'occuper de toutes les formes de mobilité et dans ce qui serait l'engagement des fonctionnaires. Et enfin, on réduit les possibilités de carrière minimale des fonctionnaires de la territoriale. Alors là aussi, c'est un rapport de la Cour des comptes qui le décrit bien, c'est que petit à petit, tout le monde passait au temps minimum. Donc il y a un fossé maintenant entre les territoriaux et l'État. Parce que la possibilité de faire avancer quelqu'un plus vite, compte tenu de son engagement, existe dans le droit, mais comme tout le monde passait, c'était plus, ou presque tout le monde, c'était plus un engagement, c'était devenu une certitude, donc ça a été réécrit dans la loi qui n'est pas encore votée, puisqu'elle est en navette au Sénat, et donc compte tenu des événements, ça va prendre un peu plus de temps, et elle doit passer au Sénat aussitôt qu'on aura une place. Et donc, on a supprimé cette possibilité de faire avancer tout le monde et effectivement de reconnaître, on a remis la valeur professionnelle dans les promotions qu'on appelait promotions au choix avant. Alors là aussi, c'est dangereux. Hein. On voit bien certains maires que je ne citerai pas et qui exigent des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, quoi. Un engagement politique, une participation à une réunion publique, des choses de ce type-là, ça ne doit pas exister. Donc il faut qu'on encadre le tout pour retrouver le sens de ce qu'est la fonction publique, impartiale, loyale, laïque, engagée et indépendante de son employeur. Puisqu'on crée aussi les lanceurs d'alerte et autres faits de ce type.
Outre la question des primes, d'ailleurs le rythme d'avancement dans la fonction publique est tout de même très, très calibré. Chez les enseignants, par exemple, vous avez 3 rythmes d'avancement. Et au total, sur une carrière, ça peut faire 100 000 euros. Pour vous mettre un indicateur, entre un professeur, si vous êtes prof dans l'enseignement secondaire, vous avez 11 échelons, et plus un échelon exceptionnel, eh bien, vous avez 3 rythmes d'avancement, à l'ancienneté, au petit choix, au grand choix. Entre un fonctionnaire qui avance à l'ancienneté et un fonctionnaire qui avance au grand choix, en fin de carrière, enfin, vous faites les comptes, vous arrivez à pas loin de 100 000 euros. Donc, vous voyez, ça n'est pas négligeable.
Allez. La grande bonne nouvelle, c'est que les enseignants vont pouvoir atteindre, pas ceux des facs qu'ils avaient déjà, je pense. Vous êtes employé d'un opérateur. Donc, pas directement l'éducation nationale, mais vont atteindre le fameux échelon 1015. Le rêve. Enfin, quand on voit combien c'est, on pense aussi que c'est pas énorme. Mais...
enfin, je prêche un peu pour ma paroisse, mais par exemple, quand moi je suis enseignant du secondaire détaché dans le supérieur, j'avance en ancienneté. Quoi, par exemple.
Vous avancez plus vite ?
Ah non, vous êtes pas moins vite.
Oh ben alors, c'est pas juste.
Oui.
Non, mais vous êtes chez un opérateur qui est pingre.
Ouais. Donc, mais bon, c'est un choix aussi de qualité. Il ouais. n'y a pas que, l'enveloppe monétaire, il y a aussi la qualité du travail. Donc c'est pour ça que. Oui. Nous avons encore une dizaine de minutes, donc il faut libérer l'amphi vers les 16 heures.
Merci. Madame la ministre, je suis enseignante en institution administrative avec ses étudiants et en droit de la fonction publique, donc votre présence me fait énormément plaisir. J'ai juste une question, est-ce que vous pouvez m'apporter votre aide ? Parce que je dis aux étudiants en institution administrative que la différence entre un établissement public et une collectivité territoriale, l'établissement public a une compétence spécialisée sur une portion du territoire, établissement public local, j'ai un représentant à mes côtés, et par contre la collectivité territoriale a une compétence générale sur une portion du territoire.
Pas forcément générale.
Mais jusqu'ici, je pouvais le dire pour la région, le département et la commune, puisqu'il y a la clause générale. Mais aujourd'hui, je ne sais plus que dire à mes étudiants.
C'est différent. C'est-à-dire que la collectivité territoriale de plein exercice est liée au suffrage. L'établissement public, communauté de communes, communauté d'agglo, métropole, n'est pas une collectivité territoriale. Les élus sont désignés au second degré, avec des règles spécifiques. Et donc, ce n'est pas une collectivité territoriale de plein exercice. Et il y a un débat parce que, comme maintenant, on flèche les élus intercommunaux lors d'une élection, la question des puristes du droit et des constitutionnalistes se pose la question de savoir si ce n'est pas en train de devenir une collectivité territoriale de plein exercice, c'est-à-dire avec tout ce qui est écrit dans la Constitution concernant les collectivités territoriales, que sont les régions, les départements et les communes. Il n'y a pas d'autres collectivités territoriales. Les régions et les départements ont perdu la clause de compétence générale, mais elles restent collectivités territoriales, et on va élire bientôt nos conseillers régionaux. Donc le débat de l'Association des maires de France, c'était de dire la commune est la collectivité territoriale dite de base, de plein exercice et de base, avec les intercos, vous êtes en train de nous empêcher d'exister. Et ils sont opposés à l'élection au suffrage universel uniquement sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur la collectivité territoriale par rapport à l'établissement public, qui lui est un établissement public à dimension variable, puisqu'on peut créer aussi des syndicats mixtes ouverts. Enfin, on a beaucoup de possibilités de créer des établissements publics, mais on ne peut pas créer de collectivité territoriale, sauf, et le dernier point, c'est quand la loi commune nouvelle permet aux communes non plus de fusionner en commune fusion association, mais de fusionner totalement et de devenir des collectivités territoriales de plein exercice à part entière, appelées aujourd'hui communes nouvelles, mais qui sont des communes. Bah, la différence, elle porte essentiellement là-dessus.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que donc, vous faites de l'élection le critère de la collectivité à la différence de l'établissement. Or, nous sommes ici dans un établissement public à caractère scientifique et culturel, et nous avons l'élection dans notre
voilà,
système.
Vous avez l'élection comme vous n'avez pas, c'est pas tout le peuple français.
Non, bien sûr, on est bien d'accord. Et alors, à contrario, lorsque les départements ou les régions, enfin, quand le département avant 1982, il avait bien un exécutif qui n'était pas élu. Donc,
c'est pour ça qu'il était un établissement public et pas
Ah non, c'était une collectivité déjà.
Non mais
la région. Oui, mais je parle du département.
Oui, mais les conseillers généraux étaient élus.
Oui, mais pas l'exécutif.
Pardon ?
Pas l'exécutif.
Non, ils ne sont collectivités que depuis, à
non.
mon avis.
Non.
Ben, si, les départements, avant, il n'y avait pas d'élus.
Mais si. Les départements sont collectivités territoriales depuis 1871, en fait.
Oui, mais avant,
complètement.
Avant, si vous voulez. Les départements, il y avait la tutelle du préfet. C'est-à-dire que ce n'était pas des collectivités territoriales.
Si. Les départements étaient déjà collectivités territoriales.
Mais ils ne sont de plein exercice que depuis la loi de décentralisation. Enfin, c'est ce qu'on me dit, moi, dans mes...
Bah, écoutez, je ne suis pas d'accord et je...
Ce n'est pas des établissements publics, en tout cas.
Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais les départements sont collectivités territoriales depuis 1871, avec la clause générale...
C'est une collectivité dans la Constitution, mais collectivité territoriale de plein exercice...
Si,
on va vérifier
si. Depuis 1871. Si, madame.
Voilà, mais c'est possible.
et dans la Constitution depuis 58 comme les autres.
Les seules collectivités de la Constitution sont la commune et le département. La région n'était pas dans la Constitution.
Je suis bien d'accord.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu la bagarre, entre guillemets, de la fin des départements, parce que pour fermer tous les départements, il faut faire une révision constitutionnelle.
Oui, on l'a faite pour la région. Donc.
Vous pouvez fermer quelques départements, et à ce moment-là, la Constitution vous permet de le faire. Si vous fermez, entre guillemets, tous les départements, il faut réviser la Constitution.
C'est exact, parce que c'est une notion de catégorie.
C'est la notion constitutionnelle que vous appelez. Enfin, aujourd'hui, on a donc 3 niveaux de collectivité dans la Constitution. Et seulement 3. Et seulement 3. Le plein exercice, je n'avais pas lu dans la Constitution, je vous en prie. D'ailleurs, les présidents de région nous demandent de rentrer dans la Constitution, c'était ça. De...
Je suis désolé. Désolé pour une question supplémentaire sur la clause générale de compétence, mais c'est vrai qu'on y est très attaché. Et est-ce qu'on ne court pas un risque avec la suppression de la clause, sachant que depuis ces 30 dernières années, pour être concret, c'est ce qui a permis souvent vraiment une montée en puissance de la décentralisation. Moi, je pense concrètement et au soutien de la commune à l'université, au soutien du département à l'université. Or, ce soutien du département aujourd'hui n'aura plus de fondement juridique. Si. Et on va avoir un trou d'air. Enfin,
on en a laissé un.
Oui.
On a laissé le contrat de plan État-Région.
Oui.
Pour que, sur les compétences de l'État, parce que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence de la région, sur les compétences de l'État, lorsqu'il y a une discussion entre les collectivités territoriales pour, par exemple, porter un bâtiment universitaire, la création d'un laboratoire universitaire, ou même un IUT, hein, moi j'ai connu ça, donc dans le cadre du contrat de plan État-Région, on fait appel au fond des uns et des autres, nonobstant la compétence. On a gardé ce véhicule-là, on a regardé sur tout ce qui s'est produit sur l'ensemble du territoire français, c'est essentiellement, je n'ai pas de pourcentage là avec moi, mais c'est un pourcentage énorme, dans le cadre des contrats de plan État-Région, qu'il y a eu des cofinancements apportés, d'autant qu'il y a des clauses de revoyure, et sur l'utilisation des fonds structurels européens. Donc ça, on l'a laissé dans la loi, je l'ai redit plusieurs fois au banc pour que ce soit possible. Mais en plus, avec la conférence territoriale de l'action publique, vous pouvez décider dans la conférence de l'action publique que, par exemple, l'immobilier d'entreprise sera porté par tout le monde. Mais la région pose le souci à la conférence territoriale de l'action publique. C'est pour ça que ce n'est pas comme le B16 en Bretagne avant était une rencontre, non pas amicale, mais constructive autant que faire se peut. Maintenant, c'est institué. C'est-à-dire que cette conférence territoriale de l'action publique permet aux uns et aux autres de subdéléguer leurs compétences en infra. Y compris, un département peut déléguer une compétence solidarité. Par exemple, il y a des régions aujourd'hui qui ont été appelées à cofinancer l'accueil des enfants étrangers parce qu'il y en a trop et que les départements ont étouffé. Vous pouvez déléguer comme ça en infra une compétence. Donc, on n'oblige plus... le maire, le président du département, le président du conseil régional, à se faire agresser en disant comment ça se fait que tu n'as pas aidé mon club de foot. Et encore, j'ai mon exemple est mauvais parce que culture et sport reste exclu du champ. Mais tu n'as pas aidé telle entreprise, il pourra dire non, compétence. Parce que ce qu'on avait malheureusement dans la dépense publique et dans l'analyse de la dépense publique, d'abord, on avait des équipements qui étaient subventionnés. On trouve beaucoup d'équipements à 80%. Donc, on avait déjà une première règle qui avait été de supprimer la règle de subventionnement des outils des uns et des autres. Mais on avait aussi une concurrence, par exemple, sur les entreprises où la région faisait une aide directe, faisait une aide à ceci, une aide à l'emploi, une aide au bâtiment. La métropole faisait une aide au terrain, une aide à la route, une aide au rond-point, une aide à l'eau, une aide à l'assainissement. Et ceux qui avaient beaucoup de moyens pouvaient faire un maximum d'aide à la création d'une structure de production, quelle qu'en soit la nature. Et celui d'à côté ne pouvait pas faire autant. Et donc, vous aviez des compétitions. Donc, on a essayé de rationaliser la dépense publique. On a gardé la liberté aux élus de dire sur tel projet, je ne sais pas moi, gros projet brestois, qu'on pourrait avoir, que je n'ai pas en tête à l'instant, sur tel projet, eh bien, on autorisera le département, tout le monde à y aller. C'est-à-dire qu'on n'oblige plus, on encourage la coopération et on met dehors, on vide la concurrence. On met de côté la concurrence. Ça va pas être toujours facile. Mais on passe de... Je pense qu'on va passer de 6 000 aides aux entreprises. On espère passer, je vous dis, on n'est pas ambitieux, à moins de 1 000. Typologie d'aide.
Bon. Bien. Il nous reste donc encore à remercier Madame la Ministre pour toutes ces... Merci.
Donc
merci beaucoup et revenez quand vous voulez.
D'accord, je reviendrai.
Merci. Pardon.